Les éditions Sonobook présentent En accord avec les éditions Sud-Ouest La veuve de la rue des remparts de Martine Lafont-Bayou interprétée par Pierre Moquet Chapitre 1 En cette heure calme d'après-dîner, deux jeunes hommes descendaient la rue des remparts à Bordeaux. L'un d'eux portait une énorme malle qui paraissait peser comme une plume dans ses bras de colosse. L'autre, aussi fin qu'une lame et d'une superbe prestance, saluait de temps à autre une connaissance. Les jardins de l'archevêché étant fermés, ils contournèrent la cathédrale Saint-André et se dirigèrent vers le couvent des Minimettes par la rue Martigny. Tout à leur discussion, ils ne se souciaient guère de la petite foule qui les ralentissait. « Pose ta malle ici, François !» dit soudain le plus âgé en désignant la margelle du puits des Treize Apôtres. « Je ne suis pas fatigué, Timothée !» s'exclama le géant. Timothée Monclérat, le fameux enquêteur bordelais, décida de montrer l'exemple et s'assit. « Allons, François, je le sais bien, mais est-ce à toi de transporter cette malle ?»«
Cher cousin, oui, c'est à moi de la porter, car Angèle Duprat n'a voulu la confier à personne d'autre. »«
Belle marque de confiance, et que contient-elle de si précieux ?»«
Des travaux d'aiguille, destinés aux filles du couvent des Minimettes, » avoua piteusement François.
« Mazette, en effet, voilà qui ordonne un convoyeur de première force. »
Si Timothée se moquait affectueusement de son cousin et filleul, c'est qu'il entendait le ramener à la raison. Le jeune garçon avait encore sur le visage la marque de l'enfance, comme celui qui sort du sommeil, celle de l'oreiller. Pour l'heure, il baissait la tête, conscient tout à coup d'une vérité à laquelle il n'avait pas songé. Timothée eut pitié. «
Allons, livre cette caisse puisque tu t'y es engagé. Mais à l'avenir, garde ta force pour de plus flatteuses missions. »
Soucieux de ménager son cousin, Timothée leva les yeux sur une maison qui ne se distinguait en rien des autres, sauf par ses combles recouverts d'ardoises. La porte d'entrée présentait toutefois les armes d'une famille et s'ouvrait sur une petite cour. «
C'est là que vécut Michel Ekem de Montaigne, » dit-il sobrement.
Surpris, François leva la tête à son tour.
« Sa maison n'est-elle pas à l'angle de la rue Margot ?»«
Non, celle dont tu parles était habitée par Montesquieu. » »«
Tiens, et ce puits sur lequel nous sommes, n'est-il pas fort beau avec son bas-relief ?»«
Certes, et j'aime ces 13 personnages sculptés, pourvu qu'ils soient toujours conservés. »« Mais ils le seront, suis-je bête. Comment une ville pourrait-elle se passer de puits ?»«
Tu as raison. » Ils sont aussi indispensables que les fontaines. Mais les choses ne restent pas toujours en place comme on le voudrait. Vois notre château Trompette. On le détruit pour unir la ville au faubourg.
Trompette n'est qu'une caserne inutile. Les soldats seront bien mieux au fort du Ha.
Je le crois aussi. Et puis, il faut des espaces où bâtir. La ville s'étend et les hôtels particuliers fleurissent partout.
Certains font de bonnes affaires, remarqua François.
Et d'autres non. Mais la spéculation va se poursuivre, malgré le catastrophique exemple de Mangin de Montmirail et d'Antoine Gaudran.
Allons, viens, débarrassons-nous de cette malle. Nous avons l'air de portefaix, ajouta Timothée d'un ton vexé. Bien sûr, il se souciait fort peu de ce que l'on pouvait croire. Mais il avait promis à sa tante, Madame Lannes, la célèbre accoucheuse, de veiller sur son fils et de l'aider à devenir un homme accompli. Il faut dire que les deux cousins s'entendaient à merveille. François mettait volontiers sa force colossale au service des enquêtes de son cousin et parrain, et Timothée, de son côté, lui confiait de plus en plus souvent de petites missions. Après avoir déposé la caisse d'Angèle Duprat au couvent, les deux jeunes gens revinrent sur leurs pas et prirent la rue Cagumule. Comme François demeurait muet, Timothée le tira de ses pensées.
« Sais-tu que ce nom de Cagumule vient des écuries où l'on renferme les mules qui servent au moulin établi sur le Peugue ?»« Les puits, les mules et les moulins sont-ils donc devenus de nouvelles passions après la chasse aux criminels ?»«
Oh, François, te voilà fâché parce qu'une péronnelle te mène par le bout du nez. Sache qu'Angèle Duprat s'amuse à tes dépens. Je te mets en garde, voilà tout. Prends, mais ne te laisse pas prendre.
C'est une personne sensible.
Oui, bien sûr. C'est également ce que croyait son frère.
François baissa sa bonne tête d'enfant et confia d'une voix désespérée.
Je ne sais plus que faire. Elle est si changeante. Elle est si... si belle. Si délicate et parfois si cruelle. Comment doit-on être avec les femmes, Timothée ? Je l'aime tant.
L'amour est comme un pur sang dont les brides se tiennent courtes, car il peut te mener bien plus loin que tu ne le voudrais.
Rappelle-toi plutôt ceci. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Voilà un adage qui, contrairement au puits des 13 apôtres, servira aussi bien dans 1000 ans qu'aujourd'hui.
Ne cède pas d'un pouce. Va ton seul chemin. Tu verras que ton Angèle viendra manger dans ta main.
L'idée d'une Angèle Duprat venant picorer dans sa paume séduisait grandement François, qui avait foi dans les conseils de son parrain. Ce dernier, il est vrai, connaissait son sujet. Il lisait dans les femmes aussi bien que dans les livres et pouvait se flatter de ne jamais s'être égaré ni départi de son libre arbitre. Enfin, presque jamais. Timothée bascula vers son cousin et lui administra une de ces bourrades affectueuses et complices dont ils avaient l'habitude.
« Attention !» hurla-t-on derrière eux.
Au même instant, une grosse pierre effleura la tempe de l'enquêteur et s'en alla briser la vitre d'une berline qui passait. Il s'en fallut de peu qu'il ne soit assommé, tant le jet était puissant et précis. Il y eut un grand remue-ménage et des cris jaillirent de la voiture, aussi bien que de petits groupes de badauds attroupés là.
« Qu'est-ce donc ? D'où venait cette pierre ?» s'exclama François, abasourdi.
« De là-bas, vois comme on court !»
Les passants désignaient tous une femme, la tête couverte d'un fichu vert, qui bousculait promeneurs et marchands pour s'enfuir à toutes jambes. François allait s'élancer, mais Timothée le retint.
« Elle est trop loin. Cela ne sert à rien de lui courir dessus. Nous la retrouverons. »
Il s'attacha à fixer dans sa mémoire les détails de son apparence. De taille moyenne, jeune, sans aucun doute, avoir la rapidité de sa course, jupe ordinaire, taillée dans une étoffe lourde d'un rouge fané. Cette femme du peuple ne l'avait pas visée par hasard. Mais alors, pour quelle raison ? Il n'en savait encore rien. Cependant, le superbe, le charismatique, l'astucieux Timothée Monclérat ne tarderait pas à le découvrir. Les deux cousins, n'ayant plus la moindre envie de flâner dans les rues de Bordeaux, se séparèrent. François avait à rendre compte de sa mission auprès d'Angèle. Il paraissait d'ailleurs résolu à poser les bases de sa nouvelle attitude. Timothée, en attendant d'en savoir plus sur son agresseur, avait pour sa part à éclaircir un autre mystère dont il ne connaissait rien, sauf un message qui lui était parvenu quelques jours auparavant. Une autre affaire l'ayant occupé jusque-là, il n'avait pu répondre que tardivement à cette demande. Il relut le billet, adossé à un mur, mieux valait rester prudent.
« Madame Clairac, demeurant rue Bobada, ayant perdu son perroquet parleur Figaro, vous prie de bien vouloir vous mettre en quête de le lui retrouver. Elle vous attend chez elle, demain matin, à la première heure. Vous aurez beaucoup à y gagner, elle s'y engage, cet oiseau lui étant plus précieux que tout au monde. »
Aussitôt, il reprit sa marche et fut en peu de temps devant la porte de Madame Clairac, rue Bobada, sur laquelle il découvrit avec surprise un papier cloué. « On nous trouvera désormais rue des Remparts, au 34. » Sans se départir de sa bonne humeur, il rebroussa chemin et se présenta à cette nouvelle adresse, gare éloignée, tandis que sonnait 3 heures au clocher de la cathédrale Saint-André. Il aimait déambuler dans cette ville bourdonnante, animé du matin au soir, où la misère la plus sordide côtoyait le faste le plus ostentatoire.